Hier, c'était le 14 février. Oui, hein? Vous êtes toujours d'accord avec moi? Ne trompe pas des dates, hein? Je suis dans le bon, là, n'est-ce pas? Alors, hier, c'était la Saint-Valentin. Vous deviez dire, ouais! Ça bouge pas, personne ne dit, ouais, bon, ça va, je le dis pour moi-même. Hier, c'était la Saint-Valentin, ouais! Beaucoup de gens l'ont fêté, chacun à sa manière. D'autres n'ont rien fait de spécial. D'autres, ça a été peut-être un jour difficile pour eux parce que les histoires d'amour, c'est parfois très compliqué dans la vie des humains. D'autres l'ont pas fêté parce que simplement ils sont seuls. Voilà, le bien-aimé est soit parti, soit décédé, soit. D'autres ne l'ont pas fait parce que simplement ils n'ont pas de bien-aimé. Mais ceux qui ont quelqu'un l'ont fêté d'une manière ou d'une autre. En tout cas, le monde entier, le monde occidental n'est pas resté sourd ni insensible à cet événement puisque les médias nous en ont tellement rabâché les oreilles, n'est-ce pas? On nous en a parlé depuis le début du mois, hein, début du mois de février, on nous a commencé à nous raconter, les commerces ont commencé à nous inonder des propositions, des cadeaux, des parfums, des vêtements, des chaussures, des tas de trucs, hein, pour comment tu dis, des fleurs et voilà des bijoux. Enfin oui, c'est vrai que bon, heureusement c'est pas une classe. Si c'était une classe, ce serait intéressant de dire. Alors que chacun dise quelque chose que on offre à la Saint-Valentin, ce serait étonnant. On pourrait avoir des tas de trucs qu'on ne peut pas imaginer. Et puis, il y en a qui se sont... Les restaurants ne sont pas restés du reste. Ils ont aussi proposé des menus avec des cœurs, des machins comme ça. Enfin, bref, tout le monde s'est mis... Il y a un côté fort commercial comme ça. À la radio, j'ai même à la radio et sur Internet, vu qu'on nous disait même... On donnait même des idées, comment bien fêter la Saint-Valentin, comment il faut faire, etc. J'ai même eu un gars qui est venu travailler chez moi, qui a dû me dire, allez, vous faites quoi avec la Saint-Valentin? Vous faites quoi avec votre femme à la Saint-Valentin? J'ai failli lui dire, mais ça ne te regarde pas. Mais enfin, bon, je ne vais pas commencer à créer un conflit inutile. C'est vrai que les gens ont l'habitude à la Saint-Valentin de se demander, alors tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et voilà, donc ça fait partie de l'événement. Et puis, moi je suis enseignant, dans les écoles, eh bien, les élèves vendent des roses pour l'événement. Alors des roses rouges pour les amoureux et des roses blanches pour les amis. Je ne me trompe pas, j'espère. Ah, c'est pas grave, hein. Enfin, vous avez compris, hein. C'est pour les amis et les amoureux, voilà. Et moi, on m'en a aussi proposé. Pour les élèves ont voulu m'en offrir. Alors je leur ai dit, s'il vous plaît, ne m'offrez pas des fleurs roses, ça c'est réservé à ma femme, et ne m'offrez pas des roses blanches parce que je ne sais pas si je suis votre ami. Parce qu'un prof, c'est toujours un ami un jour, et puis un autre jour, ce n'est plus tellement un ami. Alors mieux vaut prendre ses précautions et être plutôt un éducateur, un formateur qu'un ami. Hein? Paul, tu es d'accord avec ça? Ah, chouette. C'est bien. Si Paul est d'accord avec ça, tout... Ah non, c'est pas Paul Wegnat, c'est l'autre Paul. Hein. Enfin, le grand, le jeune, et voilà. Eh bien, si tu es d'accord, ben c'est vrai, je suis d'accord aussi. Des roses blanches, des roses rouges, amitié, amour, relation amoureuse. Dans tous les cas, le thème principal de la Saint-Valentin, c'est l'amour. C'est ça qui est le thème de la Saint-Valentin. C'est la fête de l'amour. Ah, l'amour quand tu nous tiens, disait l'autre. On ne sait pas précisément l'origine de cette fête de la Saint-Valentin. On ne sait pas vraiment précisément d'où ça vient. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Selon qu'on veut mettre la balance du côté laïque ou du côté plutôt chrétien. Mais... Je suis tombé quand même sur une source relativement crédible qui disait que la Saint-Valentin, on l'attribue à l'origine à un prêtre du nom de Valentin. Au IIIe siècle, ce prêtre mariait en secret mariés clandestinement des chrétiens. Et en fait, à l'époque, l'empereur romain de l'époque, Claude, avait interdit aux chrétiens de se marier parce qu'il avait constaté que tous les chrétiens qui se mariaient appliquaient le texte biblique. Vous savez que dans la tradition juive, quand on se marie, on est exempté des services militaires pendant un an pour consoler le cœur de sa bien-aimée. Vous saviez ça? Ça, c'est un beau cadeau que Dieu fait dans sa parole. Donc, le peuple juif, le peuple d'Israël, lorsque il se mariait, quand le jeune homme se mariait, eh bien, il était exempté des services militaires pendant un an. Il pouvait rester avec sa bien-aimée. Les autres pouvaient aller se faire tuer, mais lui restait tranquille chez lui à la maison. Ça, c'était le cadeau de Dieu pour son peuple. Et évidemment, les chrétiens ont tôt fait d'appliquer, évidemment, le principe biblique, évidemment. Hein. Et donc, ils ont commencé à déserter la légion romaine, la légion militaire. Et vous savez, la guerre, Rome et la guerre, c'est quand même un peu important. Donc, et l'empereur était fâché avec ça. Et donc, il a interdit aux chrétiens de se marier. Comme ça, ils étaient obligés d'aller faire leur service militaire. Ils étaient obligés d'aller à la guerre. Mais voilà que Valentin, donc, il bravait l'interdiction de cet empereur. Et comme on peut s'y attendre, un jour, il s'est fait pincer, il s'est fait arrêter et il a été exécuté. C'est la date où il a été exécuté qui a été donc retenue comme la date où on va célébrer. Mais il y a eu tout un processus pour cela. Il a donc été assassiné un 14 février en l'an 270. Ça fait déjà quand même des siècles. Hein. Mais c'est plus tard, quelques siècles plus tard, qu'il va d'abord devenir d'abord le saint, Saint Valentin. Et puis ensuite, après encore des siècles, au 15e siècle, là, il va être Saint Valentin, patron des amoureux. Patron des amoureux. Alors là, il devient véritablement ce que nous connaissons aujourd'hui avec la Saint-Valentin. Mais voyez-vous, la façon de le nommer comme étant saint, évidemment, ça relève de la tradition catholique, hein, qui considère comme saint tout croyant qui est mort, notamment martyr. Alors là, on va le canoniser sur ordre du pape et on va en faire un saint. Cette tradition, bien sûr, à la Réforme, nous les protestants, nous ne l'avons pas adoptée et nous ne considérons pas comme saints les personnes qui sont décédées. Mais pour nous, les saints, ce sont des vivants, c'est tous les croyants, c'est tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, ils sont appelés les saints. L'Église, c'est l'assemblée des saints. Les saints, ce sont les personnes mises à part, les personnes qui ont volontairement accepté de se mettre à part du monde, volontairement accepté de vivre une vie qui soit conforme à la volonté de Dieu, même si cela n'est pas en phase avec le monde. Des gens mis à part, des gens qui sont prêts à servir Dieu dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours. Bien que nous, les protestants, nous n'avons pas la tradition des saints comme chez les catholiques, mais nous aimons aussi quand même, nous aimons bien profiter de la fête de Saint-Valentin. Nous le fêtons nous aussi à notre manière, bien sûr. C'est une occasion pour nous de rappeler à ceux qui nous entourent combien nous les aimons, combien ils sont chers à nos cœurs. Bien entendu, nous le faisons nous devons le faire chaque année, hein, chaque jour de l'année. C'est pas seulement la Saint-Valentin. Il ne faut pas priver d'affection ton enfant pendant un an et attendre la Saint-Valentin pour le combler d'affection et puis repartir le 15 avec la méchanceté et puis lui dire, attends, le 15, ça, je te montre tout mon amour et puis, non, ça, c'est tout le temps. Mais si pour nous, la Saint-Valentin, la fête de la Saint-Valentin est une fête qui a un sens pour nous, c'est parce que pour nous, c'est la fête de l'amour. Et la fête de l'amour renvoie à Dieu. La Bible dit « Dieu est amour ». Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Nous l'avons encore lu. Et j'aimerais peut-être reprendre un texte encore dans 1 Jean, au chapitre 4. le verset 16, où clairement l'apôtre l'affirme. Et donc, c'était dans une exhortation, faisant une exhortation à une communauté chrétienne, il leur dit, nous, les croyants, ceux qui ont connu Jésus, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Alors, regardez, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Ça, c'est une affirmation de la Bible. Il ne s'agit pas d'une provision. L'amour chez Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'il possède. Ce n'est pas quelque chose qu'il a et qu'il doit donner. C'est quelque chose qui est en lui. Il est amour. C'est dans sa nature. C'est dans sa nature d'aimer. Il ne peut pas faire autrement que d'aimer. Il ne sait pas faire autrement que d'aimer. C'est dans sa nature profonde. Dieu aime. Dieu aime les humains que nous sommes. Il ne nous aime pas parce que nous sommes petits, parce que nous sommes grands, parce que nous sommes beaux. Il y a un jeune là derrière qui me sourit parce qu'il est beau. Ne vous retournez surtout pas, il va être embarrassé. Alors, ce n'est pas seulement parce que nous sommes beaux, c'est parce que nous sommes moches, c'est parce que nous sommes des gens qui agissons correctement, c'est parce que Dieu nous aime tel que nous sommes. Il nous aime. Son amour est un amour inconditionnel. Dieu aime. C'est dans sa nature. Toute la Bible est une histoire d'amour d'un Dieu qui cherche l'humain. Un Dieu qui aime. Un Dieu qui manifeste un amour toujours profond. Voyez-vous, l'amour de Dieu ne se manifeste pas sous la forme d'une fleur blanche, d'une fleur rose blanche, qui pourrait parler de l'amour plutôt philéo. Vous savez, l'amour philéo, c'est l'amour envers ses amis, envers ses proches, envers les gens qui m'entourent à chaque jour. Ce n'est pas Dieu. L'amour de Dieu ne se manifeste pas non plus sous la forme d'une fleur rose rouge, qui parle plutôt de l'amour éros, l'amour à l'égard d'une femme, enfin un homme, une femme à l'égard d'un partenaire sexuel. Non, l'amour de Dieu se manifeste sous une forme encore plus grandiose, encore plus profond. Il s'agit de l'amour qui se donne. On l'appelle l'amour agapé. L'amour qui se donne. L'amour qui aime l'autre sans condition. Il ne pose pas des conditions pour aimer. Tu ne dois pas d'abord être grand, beau, belle, jaune, rouge, vert, jaune, enfin tout ce que... Non, je t'aime, point. L'amour qui aime l'autre tel qu'il est. L'amour qui ne pose pas des conditions, qui recherche l'émancipation inconditionnelle de l'autre. L'émancipation inconditionnelle de l'autre. Je vais travailler pour la promotion de l'autre, même s'il n'en vaut pas la peine. Même si c'est mon ennemi. Je vais permettre à cette personne de pouvoir s'épanouir. Pas pour moi, pour cette personne-là, pour elle, pour son bonheur à elle. C'est pas pour moi, c'est pour l'autre. C'est ça l'amour agapé. C'est ça l'amour de Dieu. C'est un amour qui se donne. Un amour qui veut le bien. Un amour qui recherche le bien de l'autre. Voyez, on est loin de l'image d'un Dieu du jugement. D'un Dieu de la colère. Un Dieu qui est là et qui t'attend au tournant. Tu vas le faire, tu vas le faire, clac! On est loin de ce Dieu qui donne l'impression de nous piéger par sa puissance, par sa force, il nous écrase. Non, on est loin de ce Dieu-là. Il est vrai que c'est un Dieu tout-puissant, il est souverain, il est vrai que c'est un Dieu qui peut se fâcher. Il est vrai que c'est un Dieu qui peut entrer en colère. Il est vrai que c'est un Dieu qui peut effectivement mettre tous les moyens pour nous écraser. Mais c'est un Dieu dont la nature essentiel est d'abord l'amour. Il ne fera jamais quelque chose juste pour le plaisir de montrer qu'il est tout-puissant, pour le bonheur de nous écraser, de dire, voyez, je suis Dieu. Dieu cherche le bonheur de l'homme. Dieu recherche les hommes. Donc, l'amour de Dieu, c'est plus qu'un amour qui se vit dans un événement d'un jour, comme le 14 février. C'est plus que ça. C'est plus que simplement des cadeaux qu'on offre, des fleurs qu'on donne, des parfums, des je sais pas moi quoi. C'est plus qu'un bon plat, un bon dîner ou souper à la chandelle. C'est plus que tout l'or qu'on peut donner. L'amour de Dieu est un amour inaltérable. Alors nous allons peut-être, vous me dites, Gaston, tu occupes à raconter des trucs, ça vient de ta tête, c'est n'importe quoi. Peut-être que, en regardant dans la parole de Dieu, ce document que Dieu nous a laissé, Dieu a pris soin, je voudrais juste rappeler ça, que Dieu a pris soin de mettre par écrit tout ce qu'il voulait faire savoir à l'homme. Voyez-vous, le Dieu des chrétiens est un Dieu différent des autres dieux parce qu'il est un Dieu révélé. Il s'est fait connaître. Les autres dieux sont les fruits de notre invention. Nous les avons inventés. Nous les avons créés. Nous les avons imaginés. Dieu a fait le pas vers nous. Il s'est fait connaître aux hommes. Il a utilisé des hommes pour venir parler aux hommes. Et ça date depuis le temps d'Abraham, même encore avant. Dieu s'est toujours arrangé pour qu'il y ait quelqu'un qui parle de lui. Mais Dieu s'est arrangé aussi pour consigner par écrit tout ce qu'il avait à dire. L'essentiel de sa pensée, c'est que nous devons savoir. C'est pour ça que nous devons prendre avec considération la Bible. La Bible, ce n'est pas simplement un truc que nous devons prendre comme étant un objet. Mais non, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est vraiment ce que Dieu a voulu dire. Laissons donc maintenant la Bible nous faire connaître un peu cette dimension de l'amour de Dieu. Nous allons voir quelques textes. D'abord avec 1 Jean 3, 16. C'est l'apôtre Jean qui écrit cette lettre. On va beaucoup rester dans cet apôtre, bien qu'il y a d'autres textes qui parlent de l'amour de Dieu. Mais on va rester beaucoup avec l'apôtre Jean. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il y a un retour, il y a une attente. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Comment avons-nous connu l'amour de Dieu? Dans le fait que Dieu a donné sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et même plus encore, pour ses ennemis. Dieu a manifesté son amour en donnant sa vie. Un autre texte. Toujours dans l'épître de Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Rien à faire, on ne décolle pas. Dieu est amour, c'est dans sa nature. L'amour de Dieu, comment a-t-il été manifesté? Eh bien, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et nous a envoyé son Fils. Pour faire quoi? Comme victime expiatoire pour nos péchés. Ah, ça commence à venir. Dieu nous aime par-delà notre nature de pécheur. Dieu a envoyé son Fils par-delà notre nature de pécheur, de mauvais, d'ennemi de Dieu, d'opposé à Dieu, d'hostile à Dieu. Un autre verset. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. L'amour que nous avons pour Dieu, nous les chrétiens, est un amour en retour. C'est la réponse d'amour. La réponse de l'amour à l'amour, c'est toujours l'amour. Je t'aime, moi aussi je t'aime. Et pas je t'aime, moi non plus. On dit aussi ça parfois. L'amour de Dieu s'est manifesté en envoyant aux humains un sauveur. Un sauveur dans la personne de Jésus-Christ. C'est vrai que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Ont du mal à comprendre le vrai problème de l'homme. Voyez-vous, mes amis, le drame de l'humanité, de notre humanité, ce n'est pas la crise financière. Le drame, ce ne sont pas les guerres. Oui, c'est grave. Les drames, ce ne sont pas les guerres. Ce ne sont pas les divorces. Ce ne sont pas les violences sous toutes ces formes. Ce n'est pas l'hypocrisie, ce n'est pas tous les coups bas que les gens se font. Ce n'est pas ça le drame de l'humanité. Le drame de l'humanité, le drame des hommes, leur problème majeur, c'est le cœur de l'homme. C'est ton cœur. Ton cœur. C'est mon cœur. Le problème de l'homme, c'est le cœur. L'homme est capable du meilleur et du pire. Nous le voyons à travers les faits divers, à la radio, à la télévision. L'homme est capable du meilleur et du pire. Il est capable de sauver un enfant dans les flammes au risque de périr de sa vie, mais il est capable d'aligner un certain nombre de gens, de les tuer tous, de les faire enterrer n'importe comment et de retourner chez lui, d'embrasser ses enfants et d'aimer la vie. Le problème de l'homme, c'est le cœur. Il est capable, l'homme, de dire à quelqu'un, je t'assure, je te promets que je ferai ceci, que je ferai cela, alors qu'au fond de son cœur, il sait qu'il ment. Il ment profondément, il sait que c'est faux. Il dit des choses qui ne le fera pas. Il n'est pas vrai. C'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est un cœur rempli de méchancetés, d'idées biscornues, de mauvaise intelligence, de malice. Nous sommes naturellement méchants. Et on n'a aucune maîtrise sur ce côté obscur de nous. Ce côté mauvais de nous. On ne sait pas le maîtriser. Essayez de maîtriser vos colères. Essayez de maîtriser votre méchanceté. Essayez de passer toute une journée en disant « Ouais, je vais essayer de vaincre ma nature. » Par exemple, vous êtes un menteur. Je vais essayer de vaincre ma nature de menteur. Vous le ferez une fois, deux fois, vous allez craquer. On n'a pas de maîtrise. On n'a aucune maîtrise sur ce que nous sommes en mal. Et je vais même aller plus loin. L'ironie de l'histoire, c'est quoi ? On n'est même pas capable de faire toujours tout le bien qu'on a envie. La maltraitance dans les familles. Vous pensez que les parents qui maltraitent leurs enfants sont des gens qui se sont dit « Je vais le maltraiter, il va voir, il va souffrir !» Non ! C'est quelqu'un qui croit bien faire. Il est exigeant, il est dur, il est à la limite de l'insupportable avec son enfant parce qu'il croit que c'est un bien pour son enfant, que son enfant profitera, que son enfant deviendra un bon enfant, jusqu'à ce que quelqu'un mette le doigt en disant non, tu vas loin, tu vas très loin, c'est de la maltraitance. Voyez-vous, ça c'est le cœur de l'homme. On ne peut pas le nier, nous sommes tous logés à la même enseigne. Même si nous sommes des gens bien, même si nous sommes souriants, même si nous sommes gentils, même si nous avons parfois une attitude des personnes qui, oh là là, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, comme on aime bien dire parfois. On est tous logés à la même enseigne, parce qu'au fond de nous, nous connaissons nos misères. Nous connaissons ce que nous sommes vraiment. Personne ne peut dire, ouais, moi, je suis clean et parfait, absolu. Personne. Personne. On est tous logés à la même enseigne. Nous tous, tels que nous sommes habités par le mal. Et ce mal altère profondément notre humanité. Ce mal change le cours de l'histoire. Un prince qui est en conflit avec un autre prince, qui décide de prendre des armes et qui va en guerre juste pour punir cet autre prince qu'il avait volé ou humilié ou je ne sais pas quoi. Et des milliers de gens meurent pour une guerre qui n'a rien à voir avec eux. Des gens qui s'enrichissent et qui prennent beaucoup d'argent, parfois en sachant très bien qu'ils sont en train d'exploiter des populations pauvres, des gens pauvres. Voyez ces grosses multinationales là-bas en Inde ou au Pakistan, peu importe, avec ce travail mal payé pour ces gamins. Ces soldats qui embauchent des petits enfants de 10 ans comme de la chair humaine pour aller tirer, pour être mort, pour qu'on tue. C'est notre humanité. C'est du cœur de l'homme que ça vient, tout ça. C'est l'homme. Alors, ce matin, nous ne pouvons que mieux comprendre le problème de l'homme. Et si nous comprenons mieux le problème de l'homme, nous comprendrons mieux la dimension de l'amour de Dieu. Depuis le commencement de ce culte, à travers les textes, vous avez bien vu que Dieu a créé l'homme. Et il a fait l'homme en lui donnant une humanité, une vie dans laquelle il n'y avait pas de mal. Il n'y avait aucun mal. Mais l'homme a choisi de suivre le mal, de faire le mal. L'homme s'est tout doucement revêtu de la nature pécheresse, la nature du pécheur. Il est devenu un homme avec une mauvaise nature. Le premier à avoir été offensé de cela, le premier à avoir été touché en plein fouet par ce problème, c'est Dieu. Puisque lui, il a créé l'homme pour être en contact avec lui, pour être en relation avec lui, pour vivre en harmonie avec lui. Le choix de l'homme a été un choix différent. Il a dit, toi, Seigneur, je ne veux pas être ton ami. Je ne veux pas vivre cette relation d'amour avec toi. Je veux m'émanciper. Je veux être libre, je veux être autonome. Je veux être mon propre Dieu. Voyez-vous ? Ça, c'est le drame de l'homme. C'est le drame de l'humanité. Il a voulu, l'homme, devenir son propre Dieu. Pouvoir parler d'égal à égal avec Dieu. Et c'est notre cauchemar aujourd'hui. C'est Dieu qui avait été offensé. C'est Dieu qui aurait pu couper définitivement les relations. D'ailleurs, c'est ce que le péché a fait. Le péché a débranché le courant. La relation s'est rompue avec Dieu. Et Dieu aurait pu dire, ok, maintenant que la relation est coupée, maintenant qu'il y a rupture totale des relations, eh bien, je vais pouvoir saquer, je vais pouvoir détruire l'homme. Et dans un élan d'amour, c'est pas ce que Dieu a fait. C'est pas ce que Dieu a fait. Le péché, mes amis, notre nature pécheresse, entraîne la rupture totale des relations avec Dieu. Et nous plonge dans les ténèbres. Les ténèbres qui font qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas sortir de l'engrenage du mal dans lequel nous sommes. Nous sommes incapables de sortir de là. L'homme peut toujours essayer. On l'a essayé, beaucoup essayent. Des gens essayent de faire quelque chose pour pouvoir se retrouver, retrouver un peu de bien. On compense. On a fait un peu de mal là-bas, on compense avec du bien. J'ai vu un reportage où il y avait cet homme qui avait fait beaucoup de mal, qui avait fait beaucoup de mal à la guerre et qui s'est dit, bon, j'ai fait beaucoup de mal parce qu'il a donné de l'ordre à ses soldats de piller, de faire tout ce qu'il voulait faire, quoi. Et puis, rentré dans la vie civile, il s'est rendu compte que c'était du mal tout ce qu'il a fait. Et il a voulu changer tout ça. Il s'est inscrit dans un ordre monastique pour devenir moine. Il disait, c'est comme ça que je vais expier mes fautes. Mais pensez-vous qu'il peut expier ses fautes? Le problème ne réside pas là, le problème réside dans le cœur de l'homme. Ce cœur qui est mauvais, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Et poussé justement par son amour inconditionnel, malgré sa révulsion du péché, Dieu a mis en place un plan pour nous sortir de la prison, pour nous sortir de l'esclavage dans lequel nous nous sommes fourrés volontairement. Dieu aurait pu condamner les hommes et nous envoyer en enfer, mais Dieu ouvre plutôt au contraire les portes du ciel. C'est Dieu qui fait le pas vers nous. C'est lui qui nous tend la main. C'est lui qui nous présente l'amour, un amour qui attend de nous une réponse. Que répondre? Quelle réponse donner? Nous avons vu dans le texte en quoi consistait cet amour, n'est-ce pas? L'amour consiste en ce qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nos péchés. Alors ça, c'est encore une autre chose que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. C'est un drame dans notre société d'aujourd'hui parce qu'on se pose la question, mais pourquoi est-ce que Jésus est-il monté à la croix? Pourquoi fallait-il qu'il meure? Est-ce qu'il avait besoin de faire tout ça? Dans une société où nous croyons que l'homme est son propre Dieu, que l'homme est capable de décider par lui-même, il suffit de sa volonté. Il suffit que je le veuille, je vais changer. Convainquez-moi. Dites-moi, donnez-moi des arguments. Si je suis convaincu de vos arguments, alors je change. Dans une telle société, c'est vrai, la mort de Jésus, c'est rien du tout. Ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Mais la réalité, nous le savons. La réalité, c'est que nous ne sommes pas capables de sortir de nos propres misères par nous-mêmes. La réalité, c'est que nous devons reconnaître qu'il y a une force en nous qui nous habite et dont nous ne maîtrisons pas la puissance. Et quand nous reconnaissons cela, nous reconnaissons alors la valeur du plan de Dieu. Pourquoi Jésus devait-il mourir à la croix pour nos péchés? Parce que Jésus devait mettre fin au règne du péché. Il devait anéantir le pouvoir du péché et nous rendre vraiment, vraiment libres. Nous rendre vraiment, vraiment libre. Libre de pouvoir faire les choix d'aimer. Libre de pouvoir vivre. Quelle est votre réponse ce matin? Que dites-vous? Que dites-vous? En mourant à la croix, Jésus met fin au pouvoir du péché dans nos vies, dans ta vie, dans la mienne. En mourant à la croix, il nous ouvre la porte du royaume de Dieu. Il nous fait entrer dans la famille de Dieu. Nous pouvons devenir enfants de Dieu. Si nous disons oui à l'amour de Dieu, si nous disons oui en réponse à l'amour de Dieu, alors nous comprenons que désormais, nous commençons une relation avec Dieu. Une relation axée sur l'amour, l'amour réciproque. Nous ne servons pas Dieu, mes amis, parce que nous sommes sous la contrainte. Nous ne servons pas Dieu parce que nous avons peur de ses réprimandes. Nous servons Dieu parce que nous l'aimons. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Est-ce que vous aimez Dieu ce matin? Si vous dites oui, si vous dites oui à l'amour de Dieu, alors il y a trois choses que vous voulez dire par votre oui. Première chose, vous dites oui parce que vous croyez que Jésus est mort à la croix pour vous. Pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Pour vous personnellement, vous croyez cela, que c'est vous le pécheur à la croix. C'est pas Jésus. C'est vous dont Jésus prend la place à la croix. C'était vous le mauvais. C'est vous qui correspondez avec toute cette description de la méchanceté humaine. C'est moi, c'est vous. Dire oui, c'est dire ça. Croire que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Croire, ça veut dire établir ça comme vrai. Que c'est vrai. Que ce n'est pas une histoire inventée, que ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la supposition philosophique, ce n'est pas une proposition logique. C'est la vérité. Deuxième chose, dire oui, ça veut dire aussi inviter Jésus à entrer dans la vie pour la diriger et la transformer radicalement. Le oui ne consiste pas seulement à dire « je crois », ça consiste à dire « je t'invite, je te reçois dans ma vie, je te demande de venir dans ma vie pour la transformer, la diriger, lui donner un sens, la rendre capable d'honorer, de respecter tes exigences. » Dire « oui », enfin, c'est dire que voilà, mon seul désir désormais, c'est de vivre dans cet amour, dans cette interface, Dieu et moi, dans une relation d'amour, en me conformant aux exigences de Dieu et en partageant cet amour avec les autres. Alors, je ne sais pas quelle est votre réponse ce matin. Peut-être avez-vous déjà dans votre vie, donner une réponse à ça. Peut-être vous êtes chrétien depuis peut-être de longues années, peut-être de courtes années, peut-être pas, peut-être oui. Peut-être avez-vous déjà donné la réponse. Oui, Seigneur, je t'aime moi aussi. Je t'aime dans le sens que je crois en toi, que je crois que tu es mort à la croix pour moi, et que c'est là la croix, ce sont mes péchés que tu as portés, que tu m'as sauvé. Je crois que oui, effectivement. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu la transformes. Je t'invite à venir dans ma vie, à devenir mon Seigneur, à devenir mon Sauveur. Et la troisième chose, je désire, Seigneur, être constamment dans cette relation avec toi. Je désire constamment vivre en tenant compte de tes exigences dans ma vie de tous les jours. Peut-être avez-vous déjà répondu oui. Peut-être pas. Ce matin, je vais m'adresser à tous ceux d'entre nous ce matin qui n'avons jamais donné une réponse. Peut-être c'est l'occasion aujourd'hui de le faire. Peut-être vous êtes là aussi, vous êtes donné un jour la réponse. Mais quand vous regardez le cours de votre vie, rien ne correspond plus. Vous savez, il y a des gens comme ça qui se disent chrétiens, mais qui vivent n'importe comment leur vie. Qui vivent leur vie comme si, oh, cet amour, cette relation avec Dieu n'existait pas, n'a pas de valeur à leurs yeux. Qui trahissent complètement cette relation, un peu comme cet homme qui jure à sa femme qu'il lui sera fidèle, mais qui la trompe dès la première occasion. Vous allez dire, c'est pas bien, n'est-ce pas? Vous allez dire, c'est pas bien. Quelqu'un qui donne la parole pour respecter quelque chose, et qui par la suite ne la respecte pas, vous allez dire, c'est pas bien. Eh bien, c'est pas bien non plus si on est dans cette dynamique-là aussi. Alors, aujourd'hui, si ça s'adresse à vous, si vous êtes parmi les personnes qui passaient votre vie à passer à côté des exigences de Dieu, peut-être c'est le moment de renouveler aussi votre engagement à nouveau avec Dieu. Alors, je vous invite à vous incliner. Inclinons-nous dans la prière. J'aimerais bien que ça reste très personnel, que chacun de nous, simplement lui et Dieu, avec cette question, est-ce que vous vous aimez le Seigneur? Est-ce que, à la réponse « je t'aime », peux-tu répondre « oui » Peux-tu t'engager avec le Seigneur à partir d'aujourd'hui? Si vous n'avez jamais fait cela, et si ce matin, ces choses ont une résonance nouvelle pour vous, c'est tout d'un coup, vous vous rendez compte que mais c'est vrai que je n'avais jamais pensé à tout ça, je n'avais jamais mis ça dans ma tête, mais que tout d'un coup, ça vous interpelle, ça provoque une réaction de votre part. Manifestez-vous. Manifestez-vous. Montrez-le par un signe. Peut-être lever la main pour dire, voilà, moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Peut-être que vous êtes là ce matin et votre vie est une vie incroyable. Elle est faite de choses dont vous aurez honte de parler aux autres. Ça fait longtemps que vous avez renoncé à votre vie de prière. Vous ne lisez plus votre Bible. Les choses de la foi sont devenues lointaines parce que le mode de vie que vous avez adopté vous fait même à vous-même honte. Vous vous êtes embarrassé. Peut-être ce matin, je voudrais vous demander si vous êtes dans le cas aussi de vous manifester aussi. Peut-être votre désir ce matin est de donner votre vie à Dieu, de renouveler votre engagement avec lui. Prenons au sérieux ce temps. Même si nous avons déjà nous-mêmes donné notre vie à Christ, même si Jésus est dans nos cœurs, prenons en considération ce temps pour voir aussi le cours de notre vie, notre engagement avec Dieu depuis toujours. Où est-ce que nous en sommes? Vous savez, il y a un enjeu qui dépasse votre propre vie ici-bas. Avec Dieu, on n'est pas simplement dans le quotidien de notre vie, métro, boulot, dodo. Avec Dieu, on rentre dans une autre dimension qui dépasse notre vie. L'enjeu, c'est l'éternité. Ce n'est pas seulement la vie d'aujourd'hui, c'est la vie de demain. Où serai-je? Que ferai-je? Est-ce que je vais passer mon éternité dans les ténèbres, loin de Dieu? Ou bien mon éternité à moi, je veux la vivre avec Dieu. Ici, aujourd'hui, mais aussi après la mort, avec lui pour toujours. Il y a un enjeu incroyable qui est derrière tout ça. C'est aussi cette question de comment je veux vivre, pour qui je veux vivre. Est-ce que je vais être l'esclave de la vie matérielle pour accumuler de l'argent, acheter des choses, être bien sur cette terre, avoir plein d'amis, d'argent et tout ça, et c'est tout? Ou bien réussir ma vie en ayant une autre vie, une vie avec Dieu? Je vais prier et je vais demander, si vous voulez me rejoindre dans cette prière, vous pouvez me rejoindre dans cette prière. Si elle vous parle dans votre cœur, vous pouvez la dire après moi. Si elle ne vous parle pas, que le Seigneur vous aide à faire votre chemin aussi. Seigneur Jésus, je viens de comprendre encore une fois que je suis pécheur et qu'à la croix, tu es mort pour moi. Tu es mort pour mes péchés, pour mettre fin à cette nature rebelle en moi. Merci d'avoir fait cela pour moi. Pardonne mes péchés encore une fois. Je veux vivre une vie qui te plaise. Je veux vivre une vie où je suis en relation d'amour avec toi. Je t'invite dans mon cœur. Viens entrer dans ma vie. Dirige-la, Seigneur. Transforme-la, Seigneur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Fais naître en moi un désir de, te plaire. Donne-moi la force de respecter tes exigences. Donne-moi un désir ardent de communiquer ton amour aux hommes de mon temps. Fais-moi cette grâce, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, si dans ma vie je t'ai déjà connu et que je me suis tellement éloigné de toi, ce matin je veux renouveler mon engagement. Je veux à nouveau repartir avec toi, repartir encore, remettre ma vie en ordre pour te servir encore. Merci Seigneur Jésus. Amen. Juste donner le dernier texte, tu te souviens, un Jean. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Ce sont des paroles de certitude. Tous ceux qui accueillent le Seigneur dans leur vie, le Seigneur demeure en eux. Il vient faire son temple en eux. En tout cas, si vous avez fait partie de ceux qui ont eu une réaction quelconque par rapport à ce message, de grâce, ne partez pas sans me voir. Ne partez pas sans me voir. Si vous avez des questions à poser, des questions supplémentaires, n'hésitez pas, venez me voir. Si vous voulez rester dans l'anonymat total, eh bien, vous pouvez toujours envoyer un message. Nous avons un site, c'est peut-être le moment de le dire quand même, et il y a moyen de pouvoir envoyer un message qui m'est adressé ou qui est adressé à quelqu'un dans l'église sur ce site. Si vous voulez rester dans l'anonymat, je vous répondrai par rapport aux questions générales ou personnelles que vous pourriez éventuellement vous poser. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été là et d'avoir écouté ce message.